Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Bande et bobine. Bonjour à tous, bienvenue dans Bande et bobine, votre émission qui parle de musique au cinéma. Salut Morgan.
Salut Julien, ça va?
Ça va et toi?
Ça va.
Donc on est de retour, notre émission mensuelle, pour parler de musique et cinéma avec une spéciale...
Festival de Cannes et aujourd'hui.
Oui, exactement, on est au mois de mai, donc voilà, c'est le plus grand festival du monde, qui plus est français. Donc voilà, on s'est dit peut-être une petite spéciale, on va parler des films qui ont eu la Palme d'Or.
Voilà, de tous les films qui ont eu la Palme d'Or, donc on va revenir rapidement sur le festival, tout le monde connaît. Ça a été fondé en 1946 par Jean Zé, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire.
Le fameux.
Le fameux Front populaire, on en a parlé là des 80 ans du Front populaire.
Et oui.
De Léon Blum. Donc il a été appelé, Festival International du Film jusqu'en 2002 et maintenant Festival de Cannes. Donc connu pour son tapis rouge, la montée des marches.
Son bling bling aussi.
Son côté très bling bling et...
Du coup le côté Front populaire...
Le côté Front populaire est un peu passé à la trappe, ouais. C'est voilà. Vrai que c'est un peu dommage. Bon, c'est le cinéma.
C'est ça.
Mais voilà. Bon. Donc on va vous présenter le premier film qui a été... qui a été titré en 2004, et Palme d'Or donné par Quentin Tarantino à Julien.
À Michael Moore pour le film Fahrenheit 9/11. Donc c'est le second film documentaire qui a eu une Palme d'Or dans l'histoire, après Le Monde du Silence de Jacques-Yves Cousteau.
Ouais, en 56.
Voilà, 56. Donc c'est pas banal. D'ailleurs, en compétition officielle, il y a très peu de documentaires, c'est une chose assez rare. Donc c'est une Palme d'Or qui a été un peu polémique parce que... C'est un film qui répondait à l'actualité, qui était brûlante avec la guerre en Irak, la réélection de George Bush. Voilà, ce film, c'est un brûlot contre
Bush.
C'est
un réquisitoire, carrément.
Voilà. Ouais, contre... Après, Michael Moore, avec ses méthodes qu'on peut discuter, qui sont discutables aussi. Hein. Après, c'est un film qui, je pense, a servi en son temps mettre un peu le doigt sur des choses pas très, très correctes qui se passent aux États-Unis, notamment avec la guerre en Irak et toutes les magouilles du bushisme.
Ouais, la victoire en 2000... Qu'il avait soi-disant truqué les élections face à Al Gore.
Voilà.
Ouais, beaucoup de choses comme ça. La famille Bush, ses relations avec Ben Laden.
Tout ça, ouais.
Donc on a en plus choisi une chanson dans le film qui est What a Wonderful World, pardon, de Joey Ramone, pas celle de Louis Armstrong.
Voilà, tout le monde connaît la version de Louis Armstrong, voilà. Mais là c'est Joey Ramone du groupe Ramones.
Les Ramones, ouais, voilà. Groupe punk rock, très, très polémique aussi.
Voilà, donc c'est une chanson qui était sortie et qui est sortie à titre posthume, parce qu'il est mort en 2001 ou 2002 par là, et il avait enregistré quelques morceaux, et voilà, elle est sortie un petit peu après. Et en fait, c'est une reprise qu'on connaît pas mal, parce qu'elle est souvent utilisée au cinéma ou même à la télé, dans des pubs, et elle est assez connue à l'oreille en fait. Voilà. Donc c'est pas représentatif du film, parce que voilà, c'est un film qui a pris pas mal de musique en fait, mais c'est un peu rigolo quand on parle de magouille américaine, de guerre en Irak, de voir ce titre-là en fait.
Tout à fait.
On se l'écoute ?
Allez.
C'est parti.
Beautiful world.
Paramount. Quel monde merveilleux.
Classe.
Classe. Donc là, on va partir dans les années 60 avec un film très connu, La Dolce Vita.
Voilà, de Federico Fellini.
Tout à fait. Donc, qui est sorti en France sous le nom de La Douceur de Vivre. Ouais. C'est un film franco-italien, on peut dire.
C'était le titre à la sortie, parce que maintenant, c'est rentré dans les mœurs que c'est La Dolce Vita. La Dolce Vita. C'est le nom. Film qui a eu la Palme d'Or à l'unanimité.
Ouais, au 13e Festival de Cannes. Ils ont eu aussi l'Oscar en 62 pour les costumes.
D'accord. C'est une bonne anecdote.
Écoute.
Et bon, voilà, c'est un classique parmi les classiques. Tout le monde se rappelle de la fameuse scène de la fontaine de Trévi. Voilà, c'est assez célèbre. Et avec un super compositeur, un des plus grands de l'histoire, qui a signé cette musique ô combien célèbre, j'ai nommé Nino Rota.
Nino Rota, alors, qui est né en 1911 à Milan et qui est mort à Rome en 79, il me semble.
Oui, il me semble.
Oui. Oui, bah, compositeur, chef d'orchestre italien, très 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 réputé pour ses compositions de cinéma. Il a fait environ 170 films.
Ce n'est pas rien.
Ce n'est pas rien, surtout pour ces années-là, quoi, 30, 40, 50.
Effectivement.
Et après, il sortait moins de films qu'aujourd'hui.
Et il a signé des films très célèbres. Peut-être sa plus célèbre, c'est celle du Parrain.
Ouais, celle du Parrain.
Voilà,
ouais.
Tout le monde la connaît. Voilà, bon, c'est son, un de ses chefs-d'œuvre, avec la Dolce Vita aussi, parce qu'elle est vraiment très très connue. Là, ce qui est intéressant sur ce film, la musique était jouée en playback sur le plateau, en fait. Federico Fellini l'a fait jouer en playback pour que les acteurs soient dans l'ambiance de la musique puis, et adaptent leur jeu en fonction de la musique aussi. Ouais. Et c'est assez intéressant comme procédé. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup encore ou si ça s'est beaucoup fait, mais en tout cas, c'est...
Je ne sais pas, ça doit être plus, peut-être plus inspirant, plus...
Voilà, en tout cas, c'était Federico Fellini a vraiment insisté sur ça. Donc voilà.
Ouais, puis ça marque ce film, il marque vraiment un tournant dans la maturité fellinienne, on va dire, dans le cinéma. Parce qu'après ce film, on peut dire que ça avait vraiment été la marque de fabrique de Fellini, ce film. Au début, il était, comment te dire, dans le néo-réalisme comme La Strada, Il Bidone, Les Nuits Cabria. Et à partir de ce film, il est vraiment rentré dans les chefs-d'œuvre.
Ouais,
dans...
Il change de registre dans la maturité.
Tout à fait.
Voilà, et c'est un de ses plus grands films, un des plus connus.
C'est un gros classique dans le cinéma italien, cinéma même mondial.
Et voilà, de toute façon, c'est les années aussi où le cinéma italien explose à la face du monde, quoi. C'est vraiment les classiques qui émergent à cette époque-là, et notamment, du coup, les compositeurs qui vont s'exporter aux États-Unis. On pense à Morricone, aussi, à Norota.
Puis voilà, quoi. La grande époque après du Far West et
Western Spaghetti,
des Western,
etc. Du coup, on va s'écouter ça, une musique classique de Nino Rota sur la Dolce Vita. Thank you. Voilà, c'était le grand Nino Rota sur le thème de la Dolce Vita de Federico Fellini. C'était beau, hein ?
C'était très, très beau.
Très, très beau. Du coup, on va passer sur un registre un peu plus moderne avec un film sorti en 2013, donc du coup, Palme d'Or à l'unanimité.
Aussi.
Également. J'ai nommé La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche.
Voilà, Kechiche qui signe un film. On peut dire qu'il a été. Comment dire ? Très apprécié et très critiqué aussi.
Oui, bah après c'est le cinéma de Kechiche qui est toujours comme ça quoi. On se souvient de L'Esquive ou Vénus Noire, etc. C'est des films qui sont souvent acclamés par la critique et les spectateurs des fois s'y retrouvent pas complètement. Et là, il a été polémique parce qu'il a de nombreuses scènes sexuelles qui sont assez crues.
Qui sont assez crues, mais travaillées très artistiquement. On va dire que ça. Lui, il les voulait un peu travailler avec des lumières, un peu comme un tableau, un peu comme une peinture. Donc après, c'est vrai que bon, la gestuelle et tout, sexuelle, a été là, mais bon, c'est plus. Il faut le voir plus comme quelque chose d'artistique, je pense.
Oui, il faut le voir comme ça. Après, c'est vrai qu'on va en parler en off. Il y a une scène d'amour qui dure 10 minutes. Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment artistique de montrer pendant 10 minutes ? On peut se poser la question, voilà, la question mérite
d'être posée. Oui, la question peut être posée, c'est le chemin de réflexion. Après, lui, il l'a voulu comme ça. Il voulait même un film beaucoup plus long. Il fait presque 3 heures, ce film. Je crois qu'il y avait 40 minutes de plus de prévu.
C'est vrai.
Je sais que le tournage a été très, très, très chaud au niveau des comment on peut dire ça ? Enfin, beaucoup de conflits.
Oui, il y avait les techniciens.
Il y a eu
pas mal de polémiques
acteurs,
avec les acteurs aussi.
Ouais, et apparemment, Kechiche est quelqu'un qui est...
Très exigeant.
Ouais, et pas facile à travailler avec.
Voilà. Mais après, il arrive à retirer le meilleur de ses acteurs. Et voilà, les méthodes sont peut-être un peu drastiques. Mais c'est vrai que derrière, ben voilà, en plus... comment elle s'appelle ?
Leila Seydoux ? Non, Adèle...
Exarchopoulos. Exarchopoulos, ouais. Et c'est doux aussi, voilà, qui ont eu la Palme d'Or avec Abdelatif Kechiche aussi. C'était la première fois que ça se passait comme ça. Ils ont eu la Palme d'Or pour les trois personnes. C'est pas que le film, c'est les acteurs et le réalisateur aussi. Donc c'est assez, assez beau. On peut dire que c'est tiré du roman graphique Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot.
Ouais. Ça a été le titre international d'ailleurs.
Oui, effectivement.
Blue is a warm color. Ouais.
Et du coup, bon, après, voilà, c'est quand même un très grand film qui révèle une actrice géniale, quoi. Enfin, Léa Seydoux est très très bien. On la connaissait un petit peu plus, mais la petite Adèle est très très bien aussi, quoi.
Voilà. Pour parler de musique, on a choisi El Timba, Hermano. Donc, on a beaucoup parlé de la chanson I Follow River.
Oui.
Dans le film, on n'a pas choisi celle-là exprès.
Exactement, parce qu'on en a beaucoup parlé.
Ouais.
Déjà, voilà.
Le timba, c'est un genre musical qui est né à Cuba dans les années 80. Le mot timba, ça fait partie d'une langue imbi, africaine. On retrouve la racine qui fait tumba, rumba, marimba, kalimba, mambo, tout ça. Donc voilà, et en argot cubain, timba veut dire... Pardon ?
Ganja, peut-être ?
Non.
Non, pas du tout.
Okay. Non. Et timba veut dire nouveau, voilà. Et temba veut dire vieux.
D'accord.
Donc voilà, il y a beaucoup de musique instrumentale aussi, de hang drum. L'instrument qu'on retrouve, que Kechiche avait découvert dans la rue et qui avait adoré la spiritualité de cet instrument. Donc on en retrouve beaucoup, notamment au niveau de la rencontre. Je ne sais pas si tu te souviens de cette scène.
Très bien.
Où il y a du hang drum qui est joué là.
Effectivement.
Et il a beaucoup aimé la relation qu'il avait.
Ok. Bon, on va s'écouter ça. El Timba avec le morceau Hermano, le frère.
Waouh.
Thank you.
El Timba Hermano.
C'était vraiment bien.
Ouais, c'est top, hein. Ça bouge. Hein.
Ça bouge.
C'est mon choix, c'est normal. Donc là, on va passer sur un autre registre de film, un film de David Lynch de 1990 qui s'appelle Sailor et Lula. Veux-tu nous en parler, Julien ?
Bien sûr, donc c'est un des films les plus connus de David Lynch. David Lynch, le réalisateur aux mille facettes, avec un univers très particulier. Bon, on passe bien sûr à Twin Peaks, à
Blue Velvet,
à Mulholland Drive aussi, qui avait fait dans les débuts des années 2000, je pense à peu près, qui avait fait
2001, il est sorti,
2001, voilà, un grand succès aussi, qui est un artiste multifacette. Il a sorti des disques, il a fait des expos. Enfin voilà, c'est vraiment. Il a fait Dune aussi, enfin, il a fait vraiment beaucoup de films avec un univers très particulier. Et là, il nous amène dans un road trip avec Nicolas Cage à l'époque où il savait faire des bons films.
Ben ouais, où il avait peut-être plus de propositions, je sais pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait un bête de la merde, communément.
On avait, effectivement.
Ouais. Mais oui, on le retrouve plus jeune. On retrouve Laura Dern, Diane Ladd, Willem Dafoe.
Oui, il y a un joli casting.
Ouais. Joli casting. Et oui, c'est un road trip, en fait. C'est une histoire d'amour où il essaye de fuir sa belle-mère, qui est un peu psychopathe. J'ai quelques vagues souvenirs. Je ne me souviens pas trop bien du film.
C'est ça,
ouais. Ouais, donc ça nous amène dans l'Amérique où tout se passe, quoi. Il y a des bandits, il y a des cambrioleurs, je sais plus.
Des dealers,
etc. Ouais, voilà.
Et du coup, là, il y a la musique qu'on a choisie, c'est le classique parmi les classiques d'Elvis Presley, Love Me Tender.
Ouais, qui dans le film est chanté d'ailleurs par Nicolas Cage.
Oui, donc là, c'est la version
Donc là, c'est la version d'Elvis qu'on a pris.
Du King. Parce que, enfin, on l'appelait comme ça, hein.
On l'appelait.
Ah, il y a encore des
rumeurs. Non, je t'ai dit. Son dentiste a témoigné.
On en avait déjà parlé, en fait.
Et oui.
Et le dentiste a dit quoi ?
Je pense
que ça intéresse les auditeurs.
Comment ?
Les auditeurs sont intéressés par rapport
à... Mais parce qu'en fait, il est allé voir son dentiste. Son dentiste qui lui avait prescrit des médicaments très puissants. Mm-hmm. Et après, il a fait son overdose. Mais le dentiste a bien dit que oui, il était mort, quoi.
À mon avis, c'est pas une preuve irréfutable. Je pense qu'il est sur une île tranquillou avec Tupac. Bref,
ouais, d'accord.
On va s'écouter Elvis Presley, Love Me Tender.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long. Take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Et voilà, c'était la voix suave de Elvis Presley.
Waouh.
Un peu comme moi actuellement. Voilà, donc après Sailor et Lula, on va parler d'un film de 1967 qui s'appelle Blow Up et qui est réalisé par Michelangelo Antonioni.
J'ai 1966, moi.
Ah.
Et ouais. Comment
et
on fait?
Et là, comment on fait?
On bon, on va dire 66-67, fin d'année, quoi. Voilà.
Si tu veux, allez.
Donc, c'est inspiré d'une nouvelle qui s'appelle Las Babas del Diablo.
Qui veut dire?
Qui veut dire qui a été traduit par les fils de la Vierge, donc qui n'a rien à voir, tu vois. Voilà, les babas du diable, je sais pas, Las Babas, qu'est-ce que
les tu... babas.
Comment tu oui, traduis ça, toi?
Les babines.
Des babines? Babas?
On n'a aucune babine. Idée. Bon. Peut-être.
Désolé.
Ils ne sont pas polyglottes.
Ils infligent ça. Voilà, donc il l'obtient en 67, par contre, la Palme d'Or.
C'est pour ça, moi, je parlais des années de réception, parce qu'on voilà. C'est une spéciale Palme d'Or, en fait.
Donc, moi, je vais être franc, j'ai pas vu le film, mais j'ai lu le pitch, là, et ça a l'air super intéressant. En fait, c'est dans les années 60, un photographe qui se retrouve dans un parc où il y a une belle...
À Londres.
Voilà.
La précision, vraiment.
Où il y a une belle lumière, et donc il commence à prendre des clichés, et il est intéressé par un couple qui s'enlace sur un banc. Et du coup, il prend des clichés du couple, la femme s'en rend compte.
Et du coup, elle est un peu choquée de,
elle est très choquée.
De se, prendre, se faire ouais. prendre en photo à son insu.
Elle lui demande les clichés, il refuse. Et plus tard dans l'après-midi, elle lui offre son corps contre la pellicule.
Voilà.
Mais il lui donne la mauvaise pellicule. Et au moment de développer ces photos-là, faisant des agrandissements, qui veut dire blow up en anglais, il se rend compte qu'il y avait eu un meurtre en arrière-plan
voilà,
de la photo.
Dans l'arrière-plan des photos, il y a un meurtre qui est en train de
ouais,
se faire.
Donc il a photographié un meurtre en direct.
Et du coup, il retourne à le parc, il retrouve le corps et voilà,
voilà
à partir
etc.
de là, se
à partir
passe
de
plein
là,
chose.
Donc ça a l'air super intéressant, je vous conseille de le voir, je vais regarder ça en rentrant chez moi.
Et du coup, la bonne idée de ce film aussi, c'est d'avoir confié la musique au célèbre ouais. jazzman Herbie Hancock. Voilà, c'est Herbie Hancock, c'est une des légendes vivantes parce qu'il est encore là, le bougre. Et c'est sa première BO, il en a fait plein en suivant. C'est voilà, c'est il a accompagné Miles Davis, il a collaboré avec tout le monde. Ce mec, c'est impressionnant. Et la musique est vraiment, elle est vraiment très très belle. Et on n'a pas vu le film, mais ça, je pense, que ça se marie bien avec cette ambiance un peu étrange, un peu suspicieuse de l'intrigue, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais. Je ne sais pas où se passe le film parce que je ne sais pas si ça se passe à Chicago, la ville de Herbie Hancock, ou si ça se passe à New York. Ou...
Londres.
C'était à Londres. Ah oui, pardon, oui. C'est écrit sur ma feuille. En gros, à Londres. Bon, ben, rien à voir, excusez-moi, je suis à l'ouest. Ben, on va écouter ça alors. Ça, c'est Verouchka, partie 1 de Herbie Hancock. Excusez-moi, c'est médicament, je pense.
Bye.
Voilà. Après le jazz d'Herbie Hancock, le grand Herbie Hancock, on va passer à une musique un peu plus festive, un peu plus dynamique, avec le film Underground d'Emir Kusturica, Palme d'Or en 95.
Ouais. Enfin, je sais pas si la musique est très...
Bon, c'est quand même musique des Balkans, donc c'est quand même moins...
Celle-là est assez calme, mais c'est vrai que c'est entraînant, la musique balkanique.
C'est Goran Bregovic, donc...
Ouais, très grand compositeur, né à Sarajevo. En 1950, il habite aujourd'hui en Serbie, à Belgrade, où il a son studio, où il travaille là-bas. Donc oui, Palme d'Or en 95 pour ce film d'Underground de Kusturica, on l'a dit. Ça évoque l'histoire assez controversée de l'ex-Yougoslavie des années 40 à...
Oui, c'est une fresque historique quasiment.
Ouais, à la fin des années 90.
Ouais, jusqu'aux années 90 avec l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Ouais.
Tout à fait. Donc voilà, je sais pas si tu veux en dire plus.
C'est Emir Kusturica, c'est quand même sa seconde Palme d'Or. Ouais. Il l'avait eu en 85, je crois, ou 86, quelque chose comme ça, pour Papa est en voyage d'affaires. Et donc il fait partie du cercle très, très fermé des réalisateurs qui ont eu deux palmes. Mm-hmm. Il y a notamment les frères Dardenne, Michael Haneke, voilà, il y en a quelques-uns, je n'ai plus tout le monde en tête. Et voilà, après il a été aussi président du Festival de Cannes quelques années plus tard aussi. Et c'est un grand réalisateur qui tourne beaucoup moins depuis quelques années.
Ouais, ça fait quelques temps qu'on a...
Voilà, il avait fait un petit documentaire sur Maradona aussi, il n'y a pas très très longtemps. Il joue l'acteur aussi, là. Il joue dans quelques films.
Mais oui. Dans Arizona Dream, il joue.
Ouais, mais ça, c'est son film aussi. Donc, ouais. Mais après, mais
d'ailleurs, c'est ça.
C'est sa seule incartade dans le cinéma américain, d'ailleurs, avec un film avec Johnny Depp. Après, il a été tout le temps très fidèle à son pays, à ses origines, tout le temps en mettant en scène ses histoires de chez lui, en fait.
Ouais.
C'est lui qui a fait connaître le cinéma de cette région, un peu. Et d'ailleurs, Goran Bregovic...
Avec qui il a collaboré. Ils étaient des amis depuis les années 70. À l'époque où Emir, justement, était cinéaste amateur, mais il était aussi bassiste dans un groupe funk.
Et oui, c'est un musicien aussi qui tourne, il fait beaucoup de tournées.
Et donc voilà, ils ont fait plein de films ensemble, Le Temps des Gitans, Le Lièvre de Vatanen, tout ça.
Voilà. Et du coup, on va écouter une chanson de Bregovic qui s'appelle « Ederlezi ».
Voilà.
Amen.
Et voilà, et derrière les i. C'est festif, hein, Julien ?
Eh bien, c'est festif, oui. Non, c'est, ça part doucement, mais c'est, on sent voilà, la chaleur instrumentale des Balkans.
Ouais. Bon, non. Enfin. Oui, si c'est ça la fête pour toi. Ça fait peur.
Et je la fête modérée.
Ouais, voilà. Très. Bon, enchaînons avec une date, 1984, un film, Paris, Texas.
Un réalisateur.
Un réalisateur qui s'appelle Wim Wenders. On y retrouve Harry Dean Stanton, Natasha Kinski, Hunter Carson. On a pris une musique de Ry Cooder.
Qui a signé toute la BO.
Voilà, qui s'appelle Paris, Texas, comme le film. Tu veux nous en parler, je sais que tu es assez fan de...
C'est un guitariste que j'aime beaucoup, qui a vraiment son propre style de jeu, qu'on appelle le slide guitar. Et voilà, qui a fait des albums qui sont juste fabuleux. Moi, il a fait notamment un album en 1994 avec Ali Farka Touré, qui s'appelle Talking Timbuktu, qui est juste magnifique, entre cette rencontre d'un guitariste américain et d'un chanteur africain. Ouais. C'est un mélange assez étonnant et juste parfait. Il a été
élu
8e meilleur guitariste selon Rolling Stone.
Je l'ai lu, ouais, en 2014.
C'est pas dégueu.
Ah, voilà. C'est pas loin du podium, c'est dommage.
Du coup, toute la BO est signée à la guitare. C'est, ça colle bien à ces ambiances du Texas, un peu désertiques, etc. On peut noter aussi que le scénario est signé Sam Shepard, donc l'acteur américain aux nombreuses cordes à son arc.
Ouais, qui était dans La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott en 2001, qui faisait Philip Kaufman en 83 aussi, L'étoffe des héros.
Voilà, après il est auteur, il est dramaturge, auteur de théâtre, il est écrivain, acteur, réalisateur. Voilà, un touche-à-tout de génie. Et on peut noter aussi que la réalisatrice Claire Denis était assistante réalisatrice sur ce film. Donc je pense qu'il n'y a pas... C'est commencer avec un film Palme d'Or, c'est pas mal quoi, pour se faire la main, comme on dit.
Ouais, tout à fait.
Mais du coup, on va s'écouter une musique tout en douceur de Ry Cooder.
C'est parti.
La douceur de Ry Cooder sur le film Paris, Texas. Ça fait du bien un peu.
C'est très festif.
Non, ce n'est pas festif, Morgan. Tu divagues. Du coup, on va partir sur autre chose avec un film de Robert Altman de 1970, Palme d'Or en 70, qui s'appelle M.A.S.H. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Morgan ?
Oui, tout à fait, M.A.S.H. Donc, les lettres qui sont pour Mobile Army Surgical Hospital.
En gros, c'est voilà. Hôpital de campagne et d'unité de chirurgie.
Ouais.
C'est un peu ça.
Je sais pas où c'est que t'as vu campagne, mais...
Eh si, parce que ça se passe pas dans la guerre et tout, donc c'est hôpital mobile, ouais.
Donc voilà, il y a les capitaines Hawkeye et Duke qui sont affectés à cette caserne, unité. Et voilà, du coup, ils sont assez coureurs de jupons, rebelles, malicieux. Un peu comme toi, Julien.
C'est ça.
Voilà. Et une attitude provocatrice vis-à-vis de l'autorité.
Donc là, c'est plutôt toi.
Ouais. Et donc...
Du coup, voilà, c'est un film qui a été adapté aussi en série TV. Du coup, voilà, c'est un film qui a été aussi sélectionné par la librairie du Congrès américain pour être préservé parmi les grands chefs-d'œuvre du cinéma américain, donc qui a eu cet honneur-là. Et c'est quand même, ça parle beaucoup de la guerre de Corée, qui est quand même une période assez douloureuse dans l'esprit et la mentalité américaine. Donc la guerre de Corée, les années 50, etc. N'est-ce pas,
Marlon? Ouais, ouais.
Voilà. Et du coup, la musique, ils ont invité un artiste jazz que moi j'adore personnellement, qui s'appelle Ahmad Jamal, ouais, qui est un pianiste merveilleux, qui a toujours été à contre-courant de tous les courants jazz de son époque. Quand c'était le bebop, lui, il faisait pas ça. Il a toujours fait autre chose que les autres. Donc c'est pas pour se démarquer, voilà, cette quête de démarcation. C'était juste qu'il aimait pas rentrer dans le rang et il voulait faire une autre musique. Et du coup, il a été considéré que bien plus tard comme un très grand pianiste. Et on peut réécouter
bien plus tard. Enfin, il y a eu plein de collaborateurs, enfin de gens qui ont collaboré avec lui. Qui,
oui, mais pour le grand public en fait. Ouais. C'était pas un Miles Davis ou
non.
Voilà, comme c'est les grands contemporains du jazz. Il a collaboré avec beaucoup de personnes.
Ouais.
Mais il a pas été considéré comme un grand de son temps en fait. Mais c'est quand même un pianiste merveilleux et ses albums se réécoutent avec grand plaisir.
Ouais, là, il est depuis 15-20 ans, il a été quand même... Enfin, là, on le redécouvre, ou les gens le découvrent. Et...
Un peu sur le tard, mais ouais, alors qu'il est là depuis ouais, plus de 50 ans, quoi. Ouais, donc, c'est tout jeune.
C'est vraiment un monstre, quoi.
Et du coup, cette musique est vraiment très très belle. Et voilà, donc c'est...
C'est le thème de MASH.
C'est le thème de MASH. Et on vous raconte pas de salade. C'est parti.
Il l'a faite. Et voilà, le grand Jamal Amar.
Ahmad Jamal.
Ahmad Jamal.
C'était presque ça. Hein.
J'étais perturbé parce qu'on a entendu, je ne sais pas si vous avez eu l'oreille, un petit son au milieu de la chanson. Et je soupçonne Bart d'avoir fait un peu comme dans Fight Club, tu vois, d'avoir juste tac.
Subliminal.
Ouais. Donc là, on va enchaîner avec un film qu'on ne présente plus dans Bad Bobine, Pulp Fiction, 1994, Tarantino. Donc on ne le présente plus.
Voilà. Donc on n'en dit pas plus. On va directement aller sur la musique qu'on a choisie.
Que tu as choisi.
Voilà, c'est tu. Ben voilà, la BO est juste éclectique et magnifique, de mon hic. Et du coup, on va parler de Cool and the Gang, Jungle Boogie. C'est un classique aussi de ce film. D'ailleurs, Cool and the Gang, c'est un grand groupe des années 70-80. Je sais pas, est-ce qu'on en dit. On va juste écouter en fait, je pensais.
On peut juste l'écouter, il n'y a pas grand chose à dire.
Et si vraiment vous voulez en savoir plus, réécoutez les anciennes émissions de Bande des Bobines.
Allez sur Wikipédia. Et...
Ou sinon, faites ça, voilà. Mais réécoutez Bande des Bobines.
Réécoutez Bande des Bobines, Pulp Fiction, je crois qu'il revient toutes les deux émissions à peu près.
Voilà.
Donc voilà.
On aime bien.
Allez-y.
C'est parti. Allez, retour dans les années 70 avec un film de Francis Ford Coppola, de Palme d'Or en 1974, qui s'appelle Conversation secrète.
Oui, on y retrouve Gene Hackman, John Cazale, Alan Garfield.
Oui,
donc c'est une histoire d'un catholique introverti, secret, un grand spécialiste de la filature. Donc qui suit un couple, qui essaye de les enregistrer. Une fois les enregistrements finis, il se rend compte qu'ils sont en danger de mort. Et il avait déjà eu une affaire précédente comme ça qui s'était mal terminée. Donc
ouais, voilà, c'est vraiment un gros thriller d'espionnage. Ouais. Coppola était assez fasciné par ces questions d'espionnage. Après, il ne faut pas oublier qu'on est juste dans la période post-Watergate où il y a eu beaucoup de films sur journalistes d'investigation, espionnage, tout ça. C'était très à la mode dans les années 60-70.
Guerre froide.
Voilà. Ça, et Coppola, voilà, c'est un maître de
ça.
Donc, super film. Première Palme d'Or pour lui. parce qu'il en a mis une seconde 5 ans plus tard, on va en parler juste après. Ouais. Du coup, on a choisi une musique jazz encore, on a passé pas mal de jazz aujourd'hui.
De Duke Ellington.
Qui s'appelle Sophisticated Lady.
Wow.
La dame sophistiquée, hein, en traduction littérale. Et voilà, Duke Ellington, célèbre pianiste de jazz aussi américain.
Ouais. Décédé l'année du film, en 74 aussi. Donc je sais pas si la chanson est sortie posthume ou pas.
Oui, elle est sortie bien avant, c'est un emprunt, donc ouais. C'est une chanson des années 30.
D'accord.
Voilà, on parlait tout à l'heure d'Ahmad Jamal qui n'était pas très connu en son temps. Mmh. Au contraire, Duke Ellington, c'est un grand qui a été célébré dès son avènement en fait. Voilà, on va s'écouter ça, la musique de Conversation secrète.
Et voilà, Duke Ellington. On reste sur un film de Francis Ford Coppola avec 5 ans plus tard, Apocalypse Now, Palme d'Or.
Ouais, Palme d'Or ex aequo d'ailleurs, avec le tambour de Gunther Grass, ce qui n'est pas arrivé souvent dans le palmarès de Cannes. Et ouais, bon, c'est un des films les plus connus de Coppola avec Le Parrain, chef-d'œuvre complètement fou. Enfin, on connaît presque aussi bien le film que les coulisses du film, tellement le tournage a été laborieux.
Il était prévu pour 6 semaines, finalement il a duré 16 mois, il y a eu la crise cardiaque de Martin Sheen, il y a eu Coppola qui pétait un câble, des problèmes de drogue,
ouais, Marlon Brando complètement fou aussi. Enfin, c'est...
Ouais.
Voilà, ça a été un tournage, il y a eu un documentaire sorti dans les années 90 qui explique ces coulisses-là. Et qui est,
tournage
qui
est... de légende, voilà. Film de légende.
Casting de légende, donc du coup Marlon Brando, ouais. Robert Duvall, Martin Sheen, Laurence Fishburne aussi dans son premier rôle, donc le futur Neo de Matrix, non pas Neo, Morpheus de Matrix, qui avait menti sur son âge d'ailleurs pour jouer dans le rôle, il avait à peine 15 ans alors qu'il disait qu'il en avait 18. Et voilà, donc c'est un chef-d'œuvre sur la guerre du Vietnam, avec une musique qui est restée dans la postérité.
Un autre groupe de légende, The Doors.
The Doors, voilà, Jim Morrison, le morceau The End. Qui colle de suite aux images de ce film. On passait aussi à la chevauchée des Valkyries de Wagner avec les hélicos. Ouais. Voilà, c'est une scène classique. Mais The Doors, The End, c'est quand même grand classique aussi.
Grand classique.
Voilà, donc du coup, on va se dire au revoir sur ce morceau.
Voilà.
This is the end. Pour aujourd'hui. On se retrouve pour une dernière dans quelques semaines. Voilà, c'était une agréable émission avec toi, Morgan.
Ben merci, c'était agréable aussi.
Voilà, donc continuez à écouter Radio Saint-Ave, Bande des Bobines, et à bientôt.
À bientôt.
This is the end, my own.